Le grand jury de la presse immobilière. Une émission en partenariat avec Bien Ici sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue sur Radio Immo. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro du grand jury de la presse immobilière. On va décrypter l'actualité et elle est riche en ce moment, elle est riche depuis deux semaines, c'est assez intense justement. On va parler de ces rebondissements concernant la taxe foncière avec une annonce d'une augmentation, puis une suspension, bref, il faut suivre, donc on va tout reprendre. On va faire référence aussi au droit à la propriété. C'est vrai qu'en ce moment on en parle beaucoup. Est-il menacé, propriétaire en 2025, un privilège menacé ou un droit revu à la baisse? On va décrypter la situation avec nos quatre journalistes spécialisés en immobilier présents sur le plateau et puis surtout avec notre grand témoin, maître Romain Rossilandi, avocat associé au sein du cabinet Rossilandi. Vous êtes spécialisé en droit immobilier et en droit de la construction. Bonjour maître.
Bonjour.
Tout cela sera passionnant et bien sûr pour ouvrir l'émission il y aura Régis Séville. Bonjour.
Bonjour Marie.
Notre web analytics et data pour Bien Ici, et vous allez nous présenter, comme à chaque numéro, la météo de l'IMO. On va voir s'il fait beau ou s'il fait très froid. Vous allez tout nous dire. Et puis, évidemment, nos quatre journalistes vont nous présenter leur coup de cœur, leur coup de gueule, ou poser une question à notre grand témoin. Alors, les journalistes, Céline Coulot, bonjour.
Nathalie Coulot,
oh là là. Désolé, on avait marqué Céline, aussi, c'est très joli, mais je préfère Nathalie. Vous êtes journaliste indépendante pour notamment Le Monde, vous écrivez pour Le Monde et vous venez de sortir un livre, Investir dans l'immobilier pour les nuls. Alors moi j'adore cette gamme, donc je vais le lire, en plus il est pratique, il n'est pas très très gros, mais vous êtes une experte en tout cas de l'investissement immobilier. À côté de vous, Jean-Marie Bordry, bonjour.
Bonjour.
Je ne me suis pas trompée dans le prénom,
non,
responsable d'antenne pour
c'est
Sud
l'habitude.
Radio, merci d'être avec nous. Vous êtes aussi un expert en immobilier.
C'est un grand mot, mais enfin on essaye, grâce à vous.
Vous avez quand même une émission pendant plusieurs années sur l'immobilier.
Exactement, avec vous notamment pendant deux ans, et Sylvain Lévy-Valency qu'on embrasse.
Ah oui, qui n'est pas là, qui nous manque. César Armand, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Journaliste pour La Tribune, Sébastien Chabas, bonjour.
Bonjour.
Journaliste pour L'Informer et également pour Radio Immo. Mon conducteur n'est pas à jour.
Encore L'Informer, Le Nouvel Obs, Le Point, Challenge et Immo Week.
Et voilà, tout simple. Et Radio Immo.
Et Radio Immo.
Vous faites une émission 4 colonnes.
Et j'en profite, demain matin, je vous invite d'écouter Mickaël Cosson, député des Côtes d'Armor, le rapporteur du statut du bailleur privé, qui nous rappellera un peu la soirée du 14 novembre, savoir qu'est-ce qui s'est adopté, voté dans un hémicycle pourtant éparpillé, mais il y a eu des avancées.
Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette fameuse météo de l'IMO.
La météo de l'IMO, par Bien Ici.
Régis, alors que se passe-t-il pour le ciel de l'immobilier?
Alors on va dire que les tendances d'octobre sont déjà meilleures que celles de l'année dernière. L'offre augmente sur le marché de la transaction ancien, mais la demande progresse encore plus vite. Concrètement, on va avoir plus 8,6% d'annonces de biens à vendre sur le marché national entre octobre 2024 et octobre 2025, pour une demande, elle, qui progresse de 9,3%. Donc, globalement, on a un peu plus d'offres, mais on a davantage de demandes en progression. La relance, on va dire qu'elle est là. Elle est déjà armée un petit peu avec cette demande qui progresse plus vite que l'offre. Et on a des signaux positifs, en tout cas, avec des gens qui cherchent de l'immobilier.
Voilà, et c'est plutôt positif.
C'est plutôt positif et globalement, en fait, on va avoir deux situations différentes selon les territoires, avec une dynamique qui est plus urbaine. Si on regarde la différence entre les appartements et les maisons, quand on dit plus 9,3% de demandes sur le niveau national, c'est plus 14% sur les appartements, plus 5% sur les maisons. Donc on a grosso modo une progression qui est trois fois plus forte sur les appartements, donc plutôt en ville et dans les zones urbaines. En résumé, si on regarde la situation actuelle et qu'on revient sur les dernières années, 2023 c'était la cata. Voilà, en gros.
Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Au bout d'un moment, il faut arrêter de faire la langue de bois.
Était complètement ralenti, c'est-à-dire qu'on avait des prix qui étaient élevés et des budgets qui ne suivaient pas, et du coup, on était dans l'attentisme d'une situation meilleure pour pouvoir acheter. 2024, on a un marché qui redémarre doucement. Il redémarre doucement, surtout à partir de septembre, là où les banques ont changé un peu le tir, c'est-à-dire qu'elles ont mis un peu plus d'efforts pour faire passer les dossiers de crédit. On était en 2023 sur des taux qui avaient dépassé les 4%. Ils ont baissé en dessous des 4% juste début 2024. Et à partir de septembre, on a eu des banques qui communiquaient beaucoup sur venez nous présenter votre dossier de prêt immobilier. On est là pour vous aider, vous accompagner. Et un client banque avec de l'emprunt, c'est un client sur 20-25 ans aussi pour la banque. Mmh. Donc voilà, il y avait des efforts à faire à ce niveau-là. 2025 maintenant, on a une reprise qui se confirme avec une demande qui est toujours là, en fait, elle est restée importante. Et si on regarde un peu plus en arrière avec 2021, qui était l'année record, globalement, on est sur plus 50% d'offres, d'annonces en tout cas diffusées sur les biens immobiliers en France par rapport à 2021 pour une demande qui est équivalente. Donc ce niveau de demande, il reste quand même très fort. Il y a de l'intérêt, il y a de l'envie d'acheter. Il faut juste trouver le bon équilibre, surtout au niveau du budget.
Et donc là, l'offre augmente, on comprend donc que les vendeurs mettent leurs biens sur le marché.
Alors, les vendeurs mettent leurs biens sur le marché, et surtout, il y a eu un réajustement des prix entre le budget possible et des prix qui étaient très très hauts après cette bulle un peu de 2021, où tout s'est vendu très vite et à des prix assez élevés. Les prix sont restés hauts jusque 2022-2023 et ont commencé à baisser par la suite, et c'est là où on retrouve cette possibilité pour pouvoir acheter.
D'accord, donc les vendeurs ont baissé le prix. Alors en revanche, on verra, hein, parce que ça évolue assez rapidement, je trouve, en ce moment. Arrêtez-moi si je me trompe, mais...
Alors sur les prix ?
Ouais, sur les prix.
Alors les prix, ça bouge toujours. Là, si on regarde les prix en fait à l'instant T, ce qu'on va regarder, c'est plutôt en prix moyen. Et le prix moyen, il va avoir tendance à augmenter dans certaines villes. Pourquoi ? Parce que dans les transactions qui ont pu avoir lieu sur l'été, on était sur des prix qui étaient plus adaptés, peut-être un peu moins élevés. Et quand on regarde la situation avec le stock actuel, bah c'est ceux qui ne se sont pas vendus parce qu'ils étaient plus chers il y a trois mois qui remontent un peu le prix moyen aujourd'hui. Donc il faut se méfier un petit peu sur ce prix moyen, surtout au mètre carré, et regarder vraiment quel est le prix médian sur une typologie de biens par rapport à la localité et regarder comment ça évolue.
Et est-ce qu'on peut dire qu'on a des micro-marchés maintenant ? C'est ce que les professionnels disent.
Alors, il y a toujours des micro-marchés parce que ce qui intéresse le plus, c'est la localité. Oui. Est-ce qu'on a des hôpitaux, des commerces à proximité ? Est-ce qu'on est bien situé par rapport à sa vie habituelle ? Et surtout, une gestion des coûts qui est importante parce qu'au-delà du coût de l'immobilier, il va y avoir le coût de l'électricité, de l'énergie aussi pour l'essence qu'on est plus loin, le coût des transports, le temps aussi qui a sa notion de coût et qui est un peu plus psychologique dans ce cas-là. Et tous ces coûts, on ne va pas dire cachés, mais un peu masqués dans l'offre directe du prix de vente, sont à prendre en compte aussi dans son projet. Et c'est là où on va avoir ces micro-marchés sur une offre qui est très, très... prisé parce qu'on est dans un quartier super où il y a tout à proximité et une offre un petit peu plus éloignée où forcément on réattribue ses priorités.
Et puis l'idéal pour bien percevoir le micro-marché, c'est de consulter votre carte sur Bien Ici, la carte
Exactement.
3D. C'est vrai qu'on
Exactement.
Arrive bien à se projeter. Moi, je regarde où il y a des crèches, des boulangeries. c'est toujours intéressant.
Exactement. Et c'est assez simple aussi de le voir par rapport au temps de transport, tout simplement, pour savoir quand on a une école à un endroit, monsieur qui travaille à un endroit, monsieur ou madame qui travaille à un autre endroit derrière, trouver le juste milieu pour être bien chez soi aussi.
Merci beaucoup Régis. Romain, maître Romain, quels sont vos clients ? Qui sont les personnes qui viennent vous voir ?
Beaucoup de monde, moi. En fait, un cabinet d'avocats, c'est ça qui est intéressant, c'est un peu comme un laboratoire des contentieux qui vont naître. En fait, la crise du logement, moi, dans mon cabinet, ça fait 10 ans quasiment que je la vois. Donc, essentiellement, on vient me voir pourquoi ? Parce qu'il y a des impayés de loyer, que ce soit des baux d'habitation ou des baux commerciaux. D'ailleurs, c'est aussi valable pour les commerces, ce que je dis. On vient me voir pourquoi ça, c'est un phénomène que je constate de plus en plus. Ce sont des congés qui ne sont pas exécutés, c'est-à-dire que le propriétaire donne congé soit pour vendre, soit pour habiter à son locataire, et le locataire ne part pas. Il part pas soit parce que il part pas parce qu'il n'a pas trouvé d'autres solutions de relogement en fait. Et donc ces dossiers-là, ils sont depuis longtemps au cabinet. Et je m'étonnais moi déjà il y a 10 ou 10 ans que on parle pas du logement du tout, on n'en parlait pas, il y avait pas vraiment de dans les campagnes présidentielles il y avait jamais le logement n'était pas du tout au cœur des discussions. Ça reste pourtant le premier poste de dépense des Français. Donc je suis toujours étonné. Alors aujourd'hui on en parle maintenant parce que la crise elle est là. Effectivement, c'est assez nouveau, on en parle. Mais dans un cabinet d'avocats, on voit un peu avant tout le monde ce qui va se passer. Et on savait qu'avec les dossiers qui arrivent au cabinet, que le marché se tendait, en fait. On le voyait.
Vous percevez les tensions un petit peu en amont.
Sans parler des occupations illicites, du squat, etc. Ça, c'est un phénomène qui a vraiment augmenté considérablement, je dirais, sur les 5 dernières années. Et aujourd'hui, on ne parle que de ça, quasiment.
Comment on explique que ça a augmenté sur les 5 dernières années ? Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a une météo favorable au squat?
Il y a plein de choses. La météo favorable, c'est toute la réglementation, et ça on va peut-être en parler plus tard. C'est qu'effectivement le droit de propriété, moi je suis avocat, hein, je ne fais pas de politique, je défends le droit de propriété. Mmh. Pour moi c'est un droit inviolable et sacré, c'est le code civil qui le dit, c'est tout en haut de la hiérarchie des normes, c'est un droit constitutionnel, un droit fondamental, et qui est complètement malmené par le législateur.
Et pourquoi depuis 5 ans?
Alors, 5 ans, y a eu la loi Allure il y a 10 ans, ensuite il y a eu la loi Elan, maintenant on a la loi Lemeur, je vais rentrer dans le détail, mais ce que je veux dire, c'est que ce droit de propriété, depuis des années, il subit des coups de canif. Alors, on est dans un état de droit, il y a un conseil constitutionnel qui contrôle.
Qui est censé contrôler.
Qui est censé contrôler. Le permis de louer, moi, quand j'ai vu ça à l'époque, j'ai été étonné que le Conseil constitutionnel valide, ne censure pas. C'est, je vous le dis franchement, ça m'a, en tant que juriste,
alors,
encore une fois,
alors, le permis de louer,
pas...
pour nos auditeurs, c'est des propriétaires qui doivent passer un permis, entre guillemets, pour pouvoir louer leurs biens.
Oui, il y a deux types, en fait. Certaines communes, c'est les communes ou les communautés d'agglos qui décident de le mettre en place ou pas. Ouais. Et en fait, même la liste des communes qui l'ont mis en place est compliquée à trouver. C'est très difficile. Donc, vous avez acheté un bien il y a 20 ans, vous savez pas, finalement, vous vous retrouvez dans un secteur où vous êtes soumis au permis de louer. Donc le permis de louer, c'est soit vous avez une autorisation préalable, là, c'est carrément la commune qui doit, le maire qui vous donne l'autorisation de louer, en vertu de quoi, on ne sait pas. Il y a une visite, il envoie un agent de la mairie, mais qui ne connaît rien en logement décent, en logement indigne, ça c'est des notions que personne ne comprend, qu'il n'y a pas de formation spécifique. Ouais. Bon, et il y a d'autres cas où c'est simplement déclaratif, c'est déjà un peu plus souple. Mais le propriétaire qui a acheté il y a 20 ans dans une zone soumise au permis de louer, il n'était pas au courant, et du jour au lendemain, on se retrouve avec une auto. Pour moi, ça c'est un coup de canif, mais excusez-moi l'expression, au droit de propriété, très clairement. Sans parler de l'encadrement, des loyers, c'est aussi. C'est pas politique, c'est juridique ce que je dis. Encore une fois, je raisonne de façon juridique et purement factuelle.
Alors, on va passer au coup de cœur et au coup de gueule de nos journalistes.
J'ai perdu ma question, du coup.
Mais, mais vous pourrez poser d'autres questions, Jean-Marie. Nathalie, on commence avec vous. Alors, c'était plutôt un coup de cœur, c'est ça?
Oui, moi, j'avais de premier signal positif depuis très, très longtemps, depuis 2017, c'est le statut du bailleur privé. Il est dans l'air depuis quand même un moment, il vole dans les couloirs de l'Assemblée nationale, c'est un peu les montagnes russes, un jour c'est oui, un jour c'est non.
Il y a César qui nous fait des beaux mimes à côté.
Voilà, mais quand même, globalement, l'idée est lancée, en fait c'est un peu du cocooning pour les bailleurs privés, parce que sans propriétaire bailleur, il n'y a pas de location. Ouais. Et comme les locataires ont eu plus de mal à accéder à la propriété, ils quittent moins leur logement. Ouais. Donc il faut vraiment encourager les propriétaires privés, même par des mesures purement psychologiques, pas nécessairement fiscales, etc.
Comme quoi, par exemple?
Eh ben, il faut leur dire « on vous aime ». On vous aime, on a besoin de vous. Ça coûte pas cher.
En amour comme en politique, les déclarations, c'est bien. Les actes, c'est
mieux.
Les
actes, je sais, mais au moins, en fait, c'est de dire, vous n'êtes pas des méchants propriétaires qui vous enrichissez sur le dos des locataires. Et on a besoin de tout le monde.
Et c'est de casser cette vision manichéenne qui règne depuis assez longtemps. Vous allez peut-être le confirmer.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Simplement, le statut fiscal du bailleur privé, c'est ça dont on parle. C'est uniquement sous l'angle fiscal, parce que le propriétaire est considéré par notre gouvernement comme une variable d'ajustement, c'est une recette fiscale. Et on n'aime pas le propriétaire du tout, le gouvernement n'aime pas du tout le propriétaire. Moi, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin que ce statut du bailleur privé, ça va dans le bon sens, je ne vais pas dire le contraire. Mais le bailleur privé, ce n'est pas le problème fiscal qui l'intéresse, c'est qu'on lui redonne confiance, qu'on lui redonne envie de louer, et qu'on rééquilibre. Moi, je suis pour rééquilibrer la loi du 6 juillet 1989, vous savez, c'est cette grande loi d'ordre public qui vient protéger les locataires. Et c'est tout à fait normal de protéger les locataires, mais aujourd'hui, cette loi, elle est devenue illisible. Je vous donnerai un exemple, vous regarderez l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, c'est une usine à gaz, c'est incompréhensible, personne n'y comprend rien, moi je suis avocat spécialisé, je n'y comprends rien. Et aujourd'hui, cette accumulation de normes, et je ne parle que de la loi de 89, mais je veux dire, on pourrait parler du DPE, de tout ce que vous voulez, ça pèse sur le propriétaire. Le propriétaire aujourd'hui, il a peur de ça. On va lui dire, oui, très bien, tu vas pouvoir amortir ton bien, il est content. Mais ce n'est pas ça, il veut avoir confiance. Il ne veut pas mettre 3 ans et expulser un locataire qui ne paye pas son loyer.
Sachant que là, le statut du bailleur privé, est-ce qu'on peut refaire un point justement aussi dessus? Parce que ce qui a été annoncé, ce qui a été voté par les députés, ce n'est pas terrible. Là, ça passe au Sénat. Hein. Ouais. On espère que le Sénat va améliorer.
C'est très incertain. Mais globalement, alors je parle sous le contrôle de mes confrères, consoeurs, etc., mais c'est la possibilité d'amortir son bien, c'est-à-dire de déduire une partie de la valeur du bien chaque année que le à hauteur de 3,5 à 4 % et ça s'appliquerait aux biens meublés, aux biens vides, loués vides, et à l'ancien comme au neuf. Et c'est ça la nouveauté.
Mais il faut que les loyers soient très bas.
Alors non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Bon, dans les villes où l'encadrement s'applique, il faut respecter l'encadrement. Mais en fait, c'est une disposition comptable qui permet aux propriétaires bailleurs de réduire les loyers imposables. Et donc, en fait, il va déclarer chaque année un loyer un peu moins élevé, loyer sur lequel il paiera moins d'impôts. Voilà. Mais, alors, le problème, c'est que ça...
Il y a un plafond.
Il y a un plafond, il y a un loyer abordable, il y a une durée, les 3, 6, 9 ans.
Ouais.
Il y a la version d'Assemblée qui a sauté vendredi soir quand le budget a été rejeté par erreur 404, une voix pour Harold Duvart, si vous nous écoutez, monsieur le député. Et à côté de ça, il y a la version du gouvernement qui va arriver au Sénat. Marc-Philippe Daubresse, qui a coécrit le rapport avec Mickaël Cosson, dont Sébastien pour le tout à l'heure, veut remettre 5% d'amortissement sur le neuf, 4% sur l'ancien. Parce que sinon, si on reprend la version de l'Assemblée, si on écoute Renaud Cormier, président de l'Association française de l'investissement locatif, le rendement, il est de 1,2%. En moyenne par an, 1,2%. C'est moins
que le livret A.
En net.
Voilà, c'est moins que le livret A.
En brut, c'est plus. Hein. En brut, c'est plus. Ça dépend des villes.
1,2% quand le loyer est payé. En plus, voilà. Parce que Romain Rossilandi est là pour justement
parler des impayés. Mais évident. Donc, on va voir ce qui va sortir à la fin.
Donc là, la prochaine étape, c'est quoi pour nos deux tiers? C'est vrai qu'on. Le Sénat, on est d'accord.
Normalement, Marc-Philippe Daubresse.
Voilà. Qui devrait normalement améliorer ce statut.
Oui.
On espère.
Et comme disait Marc-Philippe Daubresse, le gouvernement peut dire ça coûte cher aux finances publiques, mais aujourd'hui c'est le Parlement qui est souverain. Mais après, il peut toujours y avoir des sous-amendements, comme il y en a eu aussi lors de l'examen à l'Assemblée, qui ont tout torpillé.
Après, toujours la même question, est-ce qu'on aura un budget? Parce que sans budget, pas de
bien
statut.
Hein. Ouais. Exactement. Ce ne sera pas dans la loi spéciale, c'est sûr.
Jean-Marie, vous vouliez...
Non, on parlait des normes qui pèsent sur l'immobilier. On sait que le Premier ministre a promis, je cite, un méga décret avant Noël pour supprimer des normes jugées inutiles. Est-ce qu'il y a une chance de voir deux ou trois normes immobilières lourdes passer à la trappe? C'est pas à l'ordre du jour, a priori.
Je pense pas, parce que je vois beaucoup de déclarations de nos politiques. Là, il y en a eu récemment d'un député, comment s'appelle-t-il, Le Fur, c'est ça ?
Corentin
Le Fur. C'est pas idiot sur le papier d'obliger les préfets. Vous savez, moi, je me bats aussi contre les préfets qui accordent pas les concours de la force publique. C'est-à-dire que le propriétaire qui a fait sa procédure d'expulsion, il a gagné. Il a obtenu un jugement d'expulsion et ce jugement n'est jamais exécuté par le préfet. C'est-à-dire que les gens restent sur place avec les bénédictions des autorités. Et l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions de justice. C'est pas moi qui le dis, c'est le code des procédures civiles d'exécution.
Et pourquoi il le fait pas alors?
Il le fait pas parce que sinon on va mettre 125 000 personnes dehors. Il y en a 25 000 cette année, c'est un record déjà. Et il y a à peu près encore 100 000 dossiers qui sont en attente d'être expulsés. Et je trouve que c'est assez intéressant. J'aime bien qu'on me parle de ça parce que j'ai vu que M. Kasbarian, l'ancien ministre, disait revendiquer les 25 000 expulsions. C'est un peu maladroit déjà de se réjouir de ça. On a presque l'impression qu'il s'en réjouissait. Mais sa loi Kasbarian, 27 juillet 2023, aucun rapport. Les dossiers qui sont expulsés en 2025, c'est des dossiers de 2021, 2022. Je veux dire, la réalité, c'est ça. Mais il faut être conscient de ça. Et donc, aujourd'hui, moi, mes clients, c'est ça qui leur fait peur. Je suis désolé de le dire, c'est qu'ils n'ont pas envie d'avoir des impayés. Et quand on a... Évidemment, je vois que les dossiers qui se passent mal, moi. Je sais bien que dans la majorité des cas, les gens payent le loyer. Il faut le redire.
Heureusement.
Mais quand ça se passe mal, ça fait tellement de mal pour le reste. Et les gens ont peur de ça. Et vous l'avez dit, avec des rendements de 1%, vous pensez que vous allez prendre le risque d'aller investir, vaut mieux placer son argent mais n'importe qui peut le comprendre, et encore une fois c'est pas politique ce que je dis, je crois que c'est objectif.
Et puis il faut rappeler aussi une chose, il y a certains locataires qui ne payent pas leur loyer parce qu'ils ont décidé de pas le payer, hein, ou qui sont rentrés par effraction, c'est les squatteurs, et il y a des locataires qui ne payent pas parce qu'ils ne peuvent plus payer le loyer. Je crois que vous avez eu un cas, on en avait discuté d'ailleurs sur Sud Radio, une cliente qui était propriétaire dont la locataire ne pouvait payer le loyer, c'est payer le loyer, mais elle pouvait
c'était
pas partir.
C'était un congé, je me souviens.
Voilà, elle pouvait pas partir, elle avait un enfant en bas âge, et là, ça se comprend. Enfin,
je vous donne un exemple. On parle d'insécurité juridique pour le bailleur, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Le congé, c'est le droit pour le propriétaire de donner congé à son locataire. Là, ma cliente en question, elle voulait donner congé pour que sa fille vienne faire ses études à Paris. Et depuis la loi Allure, on doit donner, le juge peut contrôler la sincérité du congé. Donc il faut en plus prouver qu'elle va vraiment faire des études à Paris. Ça va, donc on contrôle presque l'opportunité du congé, et ça c'est une prérogative du droit de propriété, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est très très limite. Certains juges ne se privent pas du tout, croyez-moi. Et cette dame, effectivement, elle donne congé il y a 4 ans. Donc ça fait 4 ans que ses locataires sont prévenus. Ils ne partent pas. Je fais ma procédure d'expulsion. Je gagne en 2022, je crois, ou 2023. Jugement d'expulsion. Je demande au préfet, il ne m'accorde pas le concours de la force publique. Je comprends. Il me dit, les occupants continuent à payer, pas des loyers, puisque ce n'est plus des loyers, ce sont des indemnités d'occupation.
Mais et du moi, montant du loyer, c'est ça.
Ma cliente m'y met ma fille, moi j'ai dû louer un autre appartement. Et maintenant, elle a quasiment fini ses études, ils sont toujours là. C'est ça la réalité des dossiers. Ouais. Et les politiques ne savent pas ça. Ils pensent...
Mais le coupable, c'est qui? C'est l'État. Parce qu'il n'y a pas de logement derrière pour reloger cette dame.
C'est ça le problème. On
ne
construit plus de logements sociaux, on ne construit plus rien. Donc, mais on fait peser cette responsabilité sur les propriétaires. Et c'est ça que je dénonce, moi, depuis des années. Mmh. Et dans les prétoires, avant, moi, il y a 20 ans, les premiers dossiers d'expulsion que j'avais, j'y allais mezzo voce. On dit, j'avais presque honte d'aller demander une expulsion. Je vous assure que c'est au début, ça m'a. Je me suis un peu décomplexé avec le temps et j'ai expliqué. Ben, la situation du propriétaire. J'ai un emprunt à rembourser. J'avais besoin du loyer pour rembourser cet emprunt. Parce que toute la loi de 89 que je dénonce, moi, enfin que j'énonce, je la dénonce, je veux la rééquilibrer, je la dénonce pas, je veux la rééquilibrer. Elle prévoit une enquête sociale pour la situation de l'occupant. On regarde, tout est prévu pour lui. Mais jamais on s'intéresse à la situation du propriétaire. Et c'est nous, avocats, qui expliquons au juge, attention, c'est pas facile, il doit rembourser un crédit, etc. Oui. Et on a quand même des décisions qui sont, on les obtient, les décisions d'expulsion, mais après, c'est au niveau du préfet que ça bloque.
Oui, tous les propriétaires ne sont pas des riches propriétaires, c'est bien de le rappeler. César, votre coup de cœur, vous voulez peut-être rebondir.
Oui, je voudrais revenir là-dessus. Aujourd'hui, il y a un grand aussi de fiscalité locale. Depuis le projet de loi de finances 2018, donc il y a 7 ans, il n'y a plus de taxe d'habitation qui a été supprimée entièrement en 2023. Aujourd'hui, la fiscalité locale ne repose que sur les propriétaires. Quand vous êtes locataire d'un logement social, vous ne payez pas de taxe d'habitation et votre bailleur social non plus. Donc c'est ça aussi le problème, c'est le matraquage actuellement fiscal qu'il y a sur les propriétaires, qui sont la variable d'ajustement des différentes politiques publiques, et qui n'incitent pas les maires à construire non plus.
On fait payer aux propriétaires la suppression de la taxe d'habitation,
tout très clairement.
Pas qu'aux propriétaires, on était au salon des maires avec Radio Immo et des collectivités locales la semaine dernière, d'ailleurs vous y étiez aussi. J'ai discuté avec Valérie Fournier, la présidente de la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat. Elle m'a dit que depuis qu'il n'y avait plus la taxe d'habitation, certains maires refusent de construire certains projets de logements sociaux. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de taxe d'habitation qui va rentrer. En revanche, quand il y a des nouveaux logements, il faut ouvrir des crèches, il faut ouvrir
des gymnases,
y a un coût pour les communes. Et derrière, il n'y a pas de taxe d'habitation. Donc en fait, ça punit également les locataires, en fait, cette suppression de taxe d'habitation. Ça, on a du mal à le percevoir. Les locataires, ils se disent, ah, génial, j'ai plus de taxe d'habitation à payer. Oui, mais en fait, il y a une punition aussi indirecte.
Mais vous me tendez une perche à Paris. Résidence secondaire, le rêve de... Moi, j'ai fait un débat avec Jacques Baudrier, le maire adjoint chargé du logement. Lui, rêve d'interdire les résidences secondaires. Je le cite.
Il s'est vanté sur mon plateau d'être communiste. Donc
il est communiste.
Ça ne passera pas. Même le Conseil constitutionnel ne pourrait pas valider ça. Oui. Mais aujourd'hui, il y a 60% de surtaxe sur les résidences secondaires. Donc, un studio dans le 15e...
Qui est le maximum autorisé par la loi.
Vous payez 3000 euros par an de taxes d'habitation.
Sur les résidences secondaires.
Mais oui. Mais ça aussi, c'est une entrave terrible au droit de propriété.
César, alors vous aviez un coup de cœur pour un coup de
cœur ? Alors moi j'ai eu un coup de cœur pour une taxe, désolé. Pas sur les propriétaires, mais sur les plateformes de location de meublés touristiques. On ne les citera pas, on les connaît tous. Mais cet amendement est tombé le lendemain, lorsque le PLF partie recette a été rejeté la nuit de vendredi à samedi. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui il y a un mal français sur tout le littoral français, qui est le recul du trait de côte. Et donc aujourd'hui il faut aussi aider les gens à se reloger, ce qu'on appelle en rétro-littoral, avec les complexités de la loi ZAN, de non-artificialisation des sols, j'ai réussi à le dire. Et tout ça, ça demande de l'argent et des moyens. Et aujourd'hui les maires n'ont pas d'argent, on ne va pas revenir sur la fiscalité locale. Et à côté de ça, il y a aussi la multiplication des meublés touristiques, et il y a pourtant toujours des gens qui habitent à l'année. Donc comment on résout l'équation ? En allant cherchant l'argent là où il est. Bon, après on verra ce que le Sénat fera de cet amendement, donc, qui a sauté avec le PLF vendredi soir, mais c'est déjà une première étape pour trouver de l'argent, pour au moins loger les gens à l'année, en permanence, sinon les littorales vont devenir des maisons de retraite, ou uniquement des résidences secondaires estivales.
Nathalie, vous qui avez écrit justement Investir dans l'immobilier, c'est vrai que ces investissements, enfin ces plateformes-là, c'est vrai qu'elles attirent de plus en plus de Français qui veulent investir dans l'immobilier. On ne peut pas en même temps leur reprocher, vu la rentabilité.
200 millions de chiffre d'affaires.
Alors, déjà, sur ces plateformes, le territoire national n'est pas du tout homogène. Il y a des endroits où les collectivités locales réclament ce type de plateforme réclame que les propriétaires louent comme ça en meublé saisonnier parce que l'économie
locale
repose essentiellement là-dessus. Alors,
et ça rapporte de la taxe de séjour aussi.
Voilà, la taxe de séjour, toute l'économie locale repose là-dessus.
Vous avez des exemples de territoires?
Oui, alors j'en connais un. Très précisément, c'est le territoire de Agde, donc la communauté d'agglomération Héro-Méditerranée, où je peux vous dire que c'est un bassin d'emploi très pauvre. Oui. Les locations saisonnières, c'est des milliers d'emplois, c'est pas possible. Le Cap d'Agde, c'est la ville d'Agde, c'est, genre, j'ai peur de dire une bêtise, mais la population double ou triple.
Ah oui, oui, c'est impressionnant l'été.
En
hein.
été. Ouais. Donc, voilà. En revanche, dans les grandes métropoles, le Pays Basque, etc., là, la situation est différente. Donc, je pense qu'il faut vraiment doser. Il ne faut pas imposer de solutions nationales toutes faites.
C'est dans la dentelle, en fait.
Voilà. Moi, je pense que c'est la seule solution. Et c'est chaque agglomération qui peut réguler, savoir un peu quels sont ses problèmes, et on ne peut pas imposer une mesure nationale.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que le tissu local, en fait, c'est, ça change hein, d'un territoire à un autre, mm-hmm. et l'économie change, et au final, mais c'est marrant parce que hier, le Premier ministre disait ça également pour la taxe foncière, qu'on ne pouvait pas faire du national, on était obligé de faire du commune par commune. C'est un peu pareil, en fait, pour ce genre de règles.
Moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je connais bien l'exemple parisien. Parce qu'on parle d'Airbnb, moi, le phénomène Airbnb, ça fait 15 ans en fait que déjà on venait me voir pour arrêter, pour éviter. Moi, les clients viennent me voir, me dire mais moi j'ai peur d'avoir un locataire qui paye pas. Et j'ai un client un jour qui m'a dit ça m'a frappé, mais moi je suis sûr que mon touriste il part à la fin parce qu'il rentre chez lui, il va pas rester.
Oui. Mais vous voyez, donc ce que je veux dire, le frein psychologique,
mais bien sûr. Alors, autre la question de la rentabilité, bien sûr. Mais à Paris aujourd'hui, la loi Lemeur. C'est une carte clé en main pour effectivement faire condamner les propriétaires. Hein. C'est une amende de 100 000 euros aujourd'hui. Hein. Celui qui fraude, c'est quand même énorme. Et donc nous, on peut plaider pour essayer de diminuer le quantum de l'amende, mais 100 000 euros d'amende. Moi, je défends des propriétaires. Je défends aussi. Je comprends hein, derrière ce ouais. qu'on veut faire, c'est qu'effectivement on veut. Mais ça va pas du tout inciter les gens forcément à le remettre dans la location traditionnelle. C'est ça que je veux dire. C'est que on traite le symptôme, mais pas la cause.
Ouais.
La cause, on en a parlé, c'est l'insuffisance de l'offre et c'est redonner envie aux gens d'aller dans la location traditionnelle. Les gens qui ont fait du Airbnb qui ont fraudé, ils vont pas forcément relouer derrière. Je vous parle de mes clients, donc c'est un exemple.
Ils vont faire quoi alors derrière ?
Ils vont vendre.
Ils vendent à chaque fois.
Souvent, ouais.
Et ils vendent à qui ? Est-ce qu'ils vendent
Ils vont vendre à quelqu'un qui va en refaire du Airbnb.
Oui, ils vendent à des étrangers qui auront un pied-à-terre. Oui, à Paris, il y a beaucoup
donc,
ça aussi.
Et après, je ne sais pas exactement quels sont les chiffres. Est-ce que ça a vraiment fonctionné ? Je ne sais pas. Déjà, tous les premiers procès de la ville, elle les a quasiment tous perdus parce qu'il y a ces fameuses fiches H2 au 1er janvier 70, etc. Moi, en tant qu'avocat, je me suis fait plaisir. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Mais je plaisante, mais on est dans un état de droit, je défends mes clients.
Bien sûr.
Mais ça ne fonctionne plus, donc aujourd'hui, on va être condamné, donc il va y avoir des recettes fiscales. C'est évident. Et l'amende de 100 000 commence à faire peur. Là, ça commence à être vraiment dissuasif. Paris, je suis moins convaincu, mais par exemple, Pays Basque, je sais que c'est évidemment Saint-Malo, l'exemple de Saint-Malo, il n'y a plus personne qui peut habiter à Saint-Malo. C'est pas normal. Je suis d'accord avec ça.
C'est les premiers qui avaient mis en place un numéro d'enregistrement avant la loi Lemeur.
Oui.
Ah oui.
Oui.
Ouais.
Et qui avaient des procès de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires locales.
Qui a essayé de faire annuler.
Donc l'UNPI, l'Union de la nationale de la propriété immobilière.
Des propriétaires immobiliers, oui.
Sébastien, alors peut-être votre coup de cœur ou votre coup de gueule ?
Alors ça sera un coup de gueule. Alors ça sera pas autant critique que ce qu'a fait hier soir Yves Tréhard, l'éditorialiste du Figaro, mais je vais quand même en parler parce que c'est de la taxe foncière.
Ouais. Ah, les rebondissements.
Alors, c'est un vrai rebondissement, c'est un vrai rétro-pédalage, comme on dit-on, du gouvernement Le Cornu. Là, pour le coup,
personne n'a rien compris.
Clair,
hein.
Parce qu'après le tollé, personne n'a rien compris, ça c'est sûr. L'UNPI, les propriétaires ont dû être contents hier au Sénat quand ils ont écouté hier après-midi Le Cornu, qui en fait change de méthode à court terme et il revient en fait et il suspend en fait la réforme.
Donc la réforme c'était quoi ? C'était une augmentation de la taxe foncière en 2026.
Oui, c'est ça.
En changeant le mode de calcul.
En fait, en catimini, à la veille du congrès des maires, peut-être même
en César. Le congrès des maires, Sébastien, souviens-toi, ils ont annoncé 446 millions de recettes pour les collectivités.
Tout à fait.
C'était juste avant de dire qu'on allait perdre nos enfants. Oui,
mais en amont quand même du congrès des maires, en catimini, ni vu ni connu, Bercy planchait sur une hausse de la taxe foncière en faisant en fait une mise à jour des fichiers du logement.
Oui.
Le Parisien se procure le document, et le document révèle, à la veille quand même du congrès, que Bercy allait augmenter en 2026, tenez-vous bien, de 63 euros en moyenne pour 7,4 millions de logements.
Oui.
basés sur des éléments de confort.
Effectivement, les fameux éléments de confort que j'ai appris, qui sont depuis 1970.
C'est quoi ces éléments de
confort ? Qui sont par exemple la présence d'eau courante, l'électricité, monsieur l'avocat.
Les toilettes.
Voilà, j'ai appris ça.
Une douche pour se laver.
Les lavabos. Donc ça représente par exemple 4 mètres carrés pour l'eau, 2 mètres carrés pour le gaz.
La mémoire, je crois que c'est le plus, c'est 5 mètres carrés.
Ah, moi j'ai.
Donc c'est des carrés fictifs qu'on rajoute. Hein.
Vous avez exactement. Un jacuzzi, vous, c'est pour ça.
Donc forcément, ça fait augmenter artificiellement le nombre de mètres carrés, mécaniquement le montant de la taxe.
Et donc, voilà. D'ailleurs, il y a, le président Darnaud, hier au Sénat, a donné un exemple assez frappant. Un studio de 15 mètres carrés pourra être fiscalisé à hauteur de 34 mètres carrés avec ses éléments de confort.
Oui, effectivement.
Très bien équipé quand même.
Ouais. Alors, l'argument de Montchalin, la ministre, c'est une question d'efficacité, d'équité de l'impôt, que chacun paye selon le logement qu'il détient. Bon, là, si j'ai bien compris, c'est que le cornu, donc en revenant, lui, ce qu'il veut, c'est quand même continuer l'actualisation. C'est ça.
Des bases de données, c'est ça.
Des bases locatives.
Ouais, des bases locatives. Parce qu'elles n'ont pas été réformées quand même depuis 1959.
Oui, au moins.
C'est ouais, ça.
Oui, la loi date. Enfin, le texte de loi date de 59. Hein, c'est ça.
Oui, moi je croyais que c'était 70, mais oui. Bon.
Non, c'est en fait, j'ai regardé hier.
La réforme
c'est son application.
Des bases locatives, voilà, c'est ça.
Enfin, c'est un serpent de mer qui traîne depuis 60 ans.
Ouais. Donc effectivement, et il souhaiterait revenir à une approche départementale, interdépartementale, voire communale,
sachant qu'il y a des grosses disparités. Par exemple, l'augmentation de la taxe foncière qui avait été annoncé d'abord, ça concernait jusqu'à 60% des logements de Haute-Corse. Ouais. C'est ce qu'on avait découvert, ce qui était quand même considérable par endroit.
Et oui, il va s'appuyer sur, comme tu le disais, sur les directions départementales des finances publiques qui vont faire ça au plus près du terrain.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Oui, bah, ça, c'est logique à ces grandes annonces de décentralisation et de clarification. Et c'est cohérent, parce qu'il n'y a pas un département où il y a la même situation, où il y a le même nombre de propriétaires ou le même nombre de locataires.
Donc au final, la réforme est suspendue, attendons au mois de juin prochain.
Donc suspendue jusqu'au mois de juin. En revanche, elle n'est pas supprimée. Hein.
Elle est pas, non, elle est suspendue.
Et donc ça, c'était votre coup de gueule.
Exactement.
Maître, est-ce qu'il y a justement des propriétaires qui sont venus vous voir ou qui vous ont téléphoné à la suite de cette annonce ?
Non, parce que mes clients, ils sont tellement habitués. Je suis désolé, mais tout à l'heure, je parlais de la variable d'ajustement. Bah, c'est toujours sur le propriétaire que ça se passe. Hein. Je crois que c'est pas un sujet pour eux, ça. Ils ont vu, ils sont habitués. Ouais. C'est le propriétaire qui paye à la fin. La réalité, elle est là. Hein. Je n'ai aucun problème à vous le dire. C'est le propriétaire qui paye. Et je crois vraiment que cette réforme-là visait, parce que c'est le problème, c'est la suppression de la taxe d'habitation, effectivement, qui était aussi payée par les locataires. Bah oui, mais du coup, le locataire, il ne paye plus rien et c'est le propriétaire qui paye pour lui. C'est vraiment... parce que la taxe foncière ne fait qu'augmenter. Moi, je ne connais pas les chiffres, mais chaque année, l'UNPI dénonce, il y a des augmentations parfois faramineuses sur certaines communes.
Cette année, pause, parce que c'est les élections municipales. Mais
évidemment, mais depuis 4 ans ou 5 ans, depuis qu'on a parlé de supprimer la taxe d'habitation, c'est ça. Donc ça commence à faire beaucoup. Et je pense que même la question du consentement à l'impôt se pose. Je suis pas le seul à le dire, j'ai lu un peu sur le sujet. Il y a des propriétaires qui à un moment vont dire ça suffit, ou alors ils vont vraiment vouloir vendre, parce qu'il n'y a plus de rentabilité, ça coûte trop cher. Donc je crois pas que ça soit la bonne solution.
Mais c'est vrai que les agences immobilières reconnaissent, hein, quand je les appelle pour les dossiers de l'Obs, le Point, Chalange, ils le reconnaissent à chaque fois, ils me disent, mais en plus, la taxe foncière.
Mais c'est ça.
Ça fait beaucoup.
Et est-ce que vous voyez, vous, depuis 2-3 ans, des propriétaires qui vendent réellement à cause de ça ? Est-ce que c'est un sujet ?
Le sujet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le propriétaire qui a eu à faire une procédure. J'ai un exemple, là. J'ai un parcours de combattant, expulsion, ça dure 3-4 ans. Ouais. Dette locative importante de plus de 30 000 euros, commission de surendettement efface d'un coup de baguette magique la dette locative. Donc mon client ne peut même pas espérer récupérer ces 30 000 euros. Parce que c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que les arriérés de loyer sont condamnés, mais on ne les récupère quasiment jamais. C'est compliqué, il faut faire des saisies, ça coûte de l'argent, c'est le propriétaire qui avance, etc. Donc souvent il laisse tomber les propriétaires. Moi mon client, il a tout ça. Il est découragé, qu'est-ce qu'il fait ? Le premier réflexe, c'est de vendre. Tout le monde ferait pareil que lui. Je vends cet appartement, je m'en débarrasse, c'est pas possible. Ils sont même traumatisés parfois.
Est-ce que les assurances, les GLI, garantie loyer impayé, fonctionnent ?
Oui, ça fonctionne.
Parce que Visal,
ça fonctionne bien.
Bon, c'est déjà pas mal.
GarantMe,
ouais.
GarantMe, ça fonctionne. Alors, oui, sauf que, bon, moi, je vois ça sous l'angle des avocats, ils font mal les procédures après, parce qu'ils vous disent, OK, on vous donne.
Faut venir vous voir, en fait.
Non, mais voilà, j'ai un exemple concret. On vous paye les loyers impayés, bien sûr. Par contre, vous nous laissez, avec nos avocats, gérer la procédure d'expulsion. Ouais. Ils vont faire une procédure pourrie, il y a un congé, ils vont pas penser à valider le congé, ils vont pas dénoncer la signation au préfet dans les deux mois. Enfin, bon, moi, j'ai eu beaucoup
d'erreurs. Pourquoi ils travaillent pas avec vous ?
Ben, ils devraient.
Mais en tout cas, est-ce que c'est important peut-être de rappeler aux propriétaires bailleurs qu'il faut s'assurer d'une façon ou d'une autre. Et peut-être que la caution physique qu'ils demandent est moins intéressante, mais là, vous pouvez peut-être nous donner votre avis.
C'est-à-dire qu'en théorie, on ne peut pas demander à la fois la caution, le cautionnement
et
personnel,
l'assurance.
Plus une assurance.
Mais c'est peut-être plus intéressant d'avoir une assurance plutôt qu'un parent qui cautionne avec une caution qui n'est pas toujours solvable.
Je ne sais pas. Oui et non, parce que ça tout dépend de la caution. Et l'avantage de la caution, c'est que vous avez une autre personne à poursuivre. Donc concrètement, c'est-à-dire que vous aurez un titre exécutoire contre deux personnes. Un titre exécutoire, que je le rappelle, est valable 10 ans. Et donc moi, j'ai des clients qui gagnent et qui sont, parce que juste après le jugement, le locataire, il est insolvable. Faut pas rêver. Mais parfois, il y a un retour à meilleure fortune 2 ou 3 ans plus tard. Et là, hop, on revient. Ils ont oublié, ils pensent que c'est fini. Et là, on signifie le jugement et on fait exécuter. Et là, on récupère parfois des fonds. Mais il faut des propriétaires qui soient un peu armés.
Contre la trésorerie.
Ben voilà, contre la trésorerie. Et souvent, ils laissent tomber, en fait.
Et la plupart des propriétaires que vous accompagnez, ils n'ont pas de GLI, donc de garantie loyer impayé de cette assurance ?
Ça dépend. Et parfois, j'ai aussi des litiges où la GLI ne veut pas jouer. Pour des clauses obscures du bail ou du...
Donc il faut bien vérifier,
évidemment.
En fait, la GLI.
Parfois, j'attaque aussi l'assureur parce qu'ils font un refus de garantie que je conteste. Donc c'est aussi... il faut se battre, en fait.
Ouais.
Et le propriétaire, en fait, il faut comprendre que la procédure... Faire une procédure d'expulsion, là, je prêche pour les avocats, sans avocat, parce que devant le juge des contentieux de la protection, on n'a pas besoin d'avocat. Le propriétaire peut faire sa procédure tout seul. Mais c'est impossible. C'est tellement compliqué, tellement technique. L'article 24, vous irez le voir, je vous promettez-moi d'aller le lire. Si vous y comprenez quelque chose, je vous dis bravo. Donc on lui demande de faire des choses qui sont impossibles, en fait. Il faut vraiment un avocat spécialisé pour être accompagné. Et ça coûte cher, un avocat spécialisé. Il faut faire une procédure, etc. Donc il avance, et puis il récupère rarement derrière.
Alors, autre sujet brûlant pour les propriétaires, la loi Climat et Résilience, qui impose un calendrier très strict pour les passoires thermiques, donc les logements mal notés au DPE, au diagnostic de performance énergétique. Quel est votre avis là-dessus ?
On parlait des entraves, encore un exemple, d'une entrave très forte là, au droit de propriété. Parce que, en fait, on fait peser aux propriétaires la responsabilité de la transition énergétique. Hein. Très clairement, on lui dit, tu vas payer la facture, tu vas faire les travaux de rénovation, sinon tu ne pourras plus louer. Et c'est déjà le cas. Depuis le 1er janvier, les passoires énergétiques, ils ne peuvent plus louer. Alors, tout le monde le fait quand même, hein. Tout le monde loue. Hein. Ils louent quand même. Mais ce que je veux dire, c'est... Est-ce que le calendrier, il est absolument intenable. Dans 3 ans, ce sera les F.
Oui, en 2028,
après,
c'est les F.
En 2034, ce sera les E. Tout le monde est E, hein. Tout le monde est E.
Bah, surtout dans les grandes villes.
Mais je ne sais pas quelle folie ils ont. Moi, sur le papier, tout le monde veut de la rénovation énergétique. On est tous d'accord. On veut des logements plus confort, etc. Mais qui va payer ça ? C'est pas possible, les propriétaires. Surtout en copropriété. Ne branchez pas là-dessus.
Je vous invite à lire l'article que j'ai signé pour dimanche prochain là-dessus sur quand le changement climatique heurte l'offre de logements disponibles, parce qu'il y a une étude de Guy Hockey qui est sortie cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, qui disait que les appartements G, F et E, à terme, ça représentera un quart de l'offre locative.
Voilà.
Un quart.
C'est QFD.
Voilà. Et par ailleurs, il y a quelque chose aussi que relevait cette fois la FNIM et son président Loïc Quentin. Tout le paradoxe, c'est que les propriétaires, eux, peuvent y vivre.
Oui.
Bien sûr.
Et ça, c'est quelque chose qu'aime bien dire aussi le président de la FNIM Grand Paris. Donc, vous avez un immeuble en bas, le commerce, il n'a pas d'obligation de rénovation. Au premier étage, le propriétaire qui habite, pas d'obligation de rénovation. Non. Deuxième étage, le propriétaire bailleur, en revanche, lui, il doit rénover. Et
c'est souvent les propriétaires de chambres de bonne. Moi, je vois ça à Paris. Ouais. Souvent des gens qui ont peu de moyens, qui ont acheté des chambres de bonne pour plus tard. Dans l'avenir, etc. Et les chambres de bonne, alors là, bonne chance, parce que vous êtes E automatique à Paris. Ou F, je crois. Enfin,
c'est plus de 9 mètres carrés,
oui.
Déjà.
Oui, non, plus de 9 mètres carrés. 9 mètres cubes. Faut que ça soit décent.
Après, faut voir l'aménagement aussi des chambres de bonne et une bonne partie des chambres de bonne, parce qu'on ne veut pas non plus faire passer tous les propriétaires pour de grands bienfaiteurs, spécialement à Paris. Hein.
Le sujet, là, vous branchez aussi, c'est qu'on veut lutter contre les marchands de sommeil, c'est tout à fait louable, mais en faisant ça, parce que le permis de louer, c'est ça, ça part d'une idée, on veut des logements décents, tout le monde. Mais en fait, on embête tous les autres.
Oui.
En fait, sous prétexte de lutter contre quelques brebis galeuses.
En fait, on met dans le même sac.
C'est ça.
Ouais. Après, il faut quand même rappeler qu'il y a toujours eu des marchands de sommeil et il y en aura toujours. Et c'est vrai qu'il faut faire de la chasse à ces marchands de sommeil.
Bah, évidemment, ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Attention, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je défends aussi des locataires. et ça m'arrive de faire des procès à des vilains propriétaires qui, effectivement, ne respectent pas. Après,
vous avez quoi comme cas de non-respect, par exemple, de la loi par des propriétaires quand vous défendez des locataires ?
Alors, le truc classique, c'est ce qu'on appelle l'indemnité d'indécence, donc souvent ça conduit à un arrêté d'insalubrité. C'est assez facile d'ailleurs pour le locataire, il suffit qu'il prévienne la commune, il y a un agent qui vient assermenter, qui dit bah, effectivement, et souvent c'est les problèmes de ventilation. Je sais que vous travaillez beaucoup avec PureProtec, et ça c'est quelque chose que je vois régulièrement, l'insuffisance de ventilation. Et ça, ça peut être effectivement créer des maladies, etc. C'est un vrai sujet de santé publique. On est malade, en fait l'air de chez vous est plus pollué que l'air du périph'. Ouais. Donc grosso modo, moi j'ai appris ça. Et effectivement, ça, ça peut conduire à un arrêté d'insalubrité. Et donc là, le propriétaire est contraint, il y a suspension automatique des loyers. Donc le locataire, c'est le seul cas d'ailleurs où le locataire ne peut se faire justice lui-même en fait, et le propriétaire doit faire des travaux, etc. Et ça peut coûter parfois, et parfois il doit même reloger à ses frais. J'ai des clients qui relogent chez Airbnb ou à l'hôtel pendant 3 mois pour qu'on fasse les travaux. Donc ça coûte cher aussi. Mmh. Ça aussi, ça fait peur quand on est propriétaire, si un jour ça vous arrive. Voilà, mais effectivement, il faut donner un logement décent, et merci de me donner la parole là-dessus, parce qu'il faut respecter ces critères, c'est indispensable. Mais la loi est bien faite, là, pour protéger le locataire, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un beau dispositif qui protège les locataires.
On protège trop les locataires, selon vous ?
C'est pas qu'on les protège trop, c'est que c'est la relation aujourd'hui, vous avez compris, c'est ce que j'essaie d'expliquer, elle est déséquilibrée. Cette loi de 89, elle est déséquilibrée. La loi de 89, elle doit profiter à un locataire de bonne foi. Quelqu'un qui perd son emploi, c'est normal qu'il soit protégé parce qu'il peut plus payer son loyer. Sauf qu'elle profite aussi à tous ceux qui sont malhonnêtes. Les squatteurs professionnels, moi ce que j'appelle les squatteurs professionnels, c'est des gens qui font le choix de squatter et de pas. J'ai des dossiers, moi, où ils sont éligibles au logement social, ils y vont pas parce qu'ils préfèrent aller habiter une maison de maître.
Non, on est d'accord, squatteur professionnel, c'est des gens qui rentrent par effraction. Dans la loi, c'est ça la définition de squatteur.
C'est un grand sujet aussi. Le squatteur, ça, c'est celui qui rentre par effraction, manœuvre, violence ou contrainte. Donc, c'est tout le problème, effectivement, du squat Airbnb qu'on voit aujourd'hui beaucoup dans les médias, c'est que le locataire qui loue via une plateforme comme Booking ou Airbnb, en 3 clics, il rentre chez vous. Et là, il n'est pas squatteur. Après, il change les serrures au bout de 3 jours, il ne part pas. C'est ce qui se passe tout le temps. Mais il n'est pas squatteur. Donc, il peut pas, le propriétaire qui est victime de ça ne peut pas saisir le préfet de la procédure Casbarian, la loi accélérée. Le préfet va dire mais
c'est
non.
C'est une faille dans la loi, en fait.
C'est une faille. Il n'est pas rentré par effraction. C'est comme un locataire, en fait, traditionnel qui se maintient abusivement après son congé. Donc, procédure judiciaire qui peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans.
Alors ça, les médias en ont beaucoup parlé cet été. En revanche, j'ai vu un autre article qui est sorti en disant qu'en fait, il n'y avait pas vraiment une augmentation, que ça avait été un peu un emballement médiatique.
Difficile à dire. Moi, je sais que vous avez parlé d'un observatoire des squats. Vous vous souvenez, l'ancien ministre avait dit on va créer un. Il n'y a jamais eu d'observatoire des squats qui a été créé. Il n'y a pas, à ma connaissance.
Tel turnover des mises du logement.
on manque énormément de données sur le logement de manière générale. On manque de données sur les loyers. Donc, il y a l'observatoire Clameur, qui est un observatoire privé qui tient la route. Ouais. Mais les observatoires publics des loyers, il y en a très très peu. On n'a pas d'infos réelles de la chancellerie, donc du ministère de la Justice, sur les impayés de loyers. On a très peu de données.
Sur le nombre de dossiers, c'est impossible de savoir.
Sur le nombre de dossiers. Du coup, c'est très compliqué de dire quels sont les chiffres, quelles sont les augmentations. Et on est à l'aveugle, un petit peu. Et du coup, c'est facile de dire... Ben non, il n'y a pas d'augmentation, c'est un phénomène, mais en fait, on n'en sait rien.
Moi, je constate l'augmentation, mais à l'échelle de mon cabinet. Et comme je le dis, c'est un laboratoire, donc je pense que c'est quand même...
C'est quand même assez représentatif.
Je crois. Bon, les impayés, ça a toujours existé, mais il y a vraiment... C'est surtout les congés, moi, que je constate. C'est des gens qui payent, mais qui n'ont pas de solution de relogement pour aller ailleurs. C'est une vraie... Alors, surtout en zone tendue, je suis en zone tendue à Paris. Donc ça, c'est très compliqué de se reloger à Paris.
Et donc ça, les congés, il y a 10-15 ans, ça n'existait pas.
Il y en avait, mais beaucoup moins. Là, moi, j'ai presque la moitié de mes dossiers, je crois que c'est du congé. Et donc, des gens qui partent pas. Et c'est catastrophique, parce qu'ils sont de bonne foi. Ils n'ont pas trouvé de solution pour se reloger. Mais moi, mon client, le propriétaire, il est aussi de bonne foi, il veut récupérer son bien. Ouais. Et donc là, c'est vraiment un symbole, je crois, de ce marché. Vous parliez tout à l'heure, mais c'était dans les ventes. Vos chiffres qui sont à la hausse dans les ventes, mais dans le locatif, je ne crois pas que ce soit du tout le cas.
Non, c'est complètement à la baisse.
C'est l'inverse.
11% globalement sur l'année cumulée 2025 par rapport à 2024 en termes de location. Et l'effet DPE s'est vu surtout sur les petites surfaces, les T1, T2, en gros, qui sont plutôt de nature destinées à la location. On l'a vu à partir du moment où les réglementations DPE sont arrivées. Donc dès 2022, on a eu une baisse flagrante. Et sur les petites surfaces T1, T2, là on était sur à peu près 80% de l'offre qui était destinée à la location. Aujourd'hui, c'est moins de 50%. Donc on a moins d'un studio disponible sur deux qui est pour de la location, alors que tous les autres sont mis en vente. Et pas forcément que des F et G, il y a aussi les E qui s'émettent et de plus en plus.
La corrélation, elle est établie, elle est indiscutable.
Et ce qui est très marquant, c'est que ce n'est pas seulement dans les grandes villes, hein. C'est maintenant sur la totalité du territoire, donc toujours pour le territoire que je connais, Hague de Pézenas, où je suis le marché attentivement, les gens, le groupe Facebook du village dans lequel je suis, c'est est-ce qu'il y a quelque chose à louer, je cherche à louer, alors que traditionnellement, il y avait zéro problème. Voilà, mais depuis un ou deux ans, là, on est dans...
Donc ça touche tous les territoires.
Ça touche tous les territoires.
Ouais.
Le calendrier est maintenu, à ma connaissance, il n'est pas question de...
Mais c'est ça que je trouve effarant, quand même. C'est que c'est maintenu, personne n'en parle, personne se rebelle. Enfin,
Moi, je voulais changer de sujet, mais on prend rien. En disant, ça provoque aussi une crise démographique. Aujourd'hui, tout le monde déplore qu'il y a moins de naissances. On crée le congé de naissance qui s'appliquera au plus tôt, si j'ai bien compris, en 2027. Parce que les gens ne font plus d'enfants. Donc on leur dit, on va leur donner plus de temps. Bah pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la pièce en plus qui accueillera le bébé.
Ouais.
Et demain, avec le vieillissement de la population, va falloir construire X EHPAD, des centaines d'EHPAD en plus. Et quand est-ce qu'on va se dire aussi qu'il y a un problème dans les naissances et pour financer les retraites de demain ? On dirait que c'est un impensé aussi de la crise du logement.
Et du coup, sur les ménages, j'enchaîne aussi dessus, c'est une partie de la crise locative, notamment dans les couples qui divorcent avec enfants. Si vous êtes un couple avec deux enfants et du coup trois chambres, quand vous divorcez, vous cherchez deux logements avec trois chambres. Et forcément, ça réduit aussi l'offre à ce niveau-là.
Oui, c'est vrai, il y a beaucoup plus de déco-habitation.
Et oui.
Pas de logement, pas de bébé, c'est vrai qu'à un moment, ça commence...
Mais c'est vrai, hein, moi, qui n'a entendu autour de soi, c'est vrai que quand on entend, moi j'ai entendu des coups, bah non, on s'arrête là parce qu'on aimerait bien avoir un enfant supplémentaire, mais on manque de surface.
Souvent, c'est l'arrivée d'un enfant qui déclenchait l'achat immobilier.
Bah oui.
Et maintenant, on se pose davantage la question aussi de savoir où on va le mettre s'il arrive.
Oui, ça prend de la place, hein, ces petits machins. Oui. On va parler d'un autre sujet, l'encadrement des loyers. Et là, j'aimerais bien qu'on fasse un tour de table, que chacun me donne son avis sur l'encadrement des loyers. Est-ce qu'on fait peut-être un point avec vous, Sébastien ? Rappelez, parce qu'il y a eu des dernières nouvelles.
Ce que j'ai appris, c'est...
Vous qui êtes toujours fourré à l'Assemblée.
La semaine prochaine, mercredi prochain, si j'ai bien compris, Inaki et Chanis, députés
des Pyrénées-Atlantiques.
Donc, qui portent cet encadrement à bras-le-corps.
Avec Anaïk Lemeur, députée des Côtes-d'Armor, vont tenter... par la niche parlementaire du PS, du Parti Socialiste, de prolonger le dispositif de l'encadrement.
Parce que c'est censé s'arrêter en 2026.
C'est ça. Exactement.
C'est censé prendre fin, c'était expérimental dans les grandes villes. Donc là, normalement, en 2026...
Je ne vous cache pas que lorsqu'on pose la question aux députés, notamment Michel Cosson, il disait, mais... Qu'est-ce qu'on va encore encadrer les loyers de nouveau, alors que déjà on a du mal à trouver des mesures
incitatives. Lui, il porte son rapport, forcément. Ouais.
Mais on sent que ça se divise sur ce sujet. Donc je pense que la semaine prochaine à l'Assemblée, sur ce discussion de niche, ça risque d'être tendu pour le coup.
Alors moi, j'aimerais bien avoir vos avis de journaliste expérimenté sur le sujet, encadrement des loyers. Alors c'est vrai que c'est sur le papier, ça protège les locataires, c'est une bonne idée.
Sur le papier, ça protège les locataires. Je vais reprendre l'expression de Maître Rossi Landy, c'est une usine à gaz, parce que il y a quand même des compléments de loyers possibles, etc. Donc c'est quand même un peu compliqué. Et ça bloque, c'est une jolie formule. À Paris, les locataires sont protégés. À Paris, les locataires sont... Les loyers sont encadrés, etc. Mais c'est pas... On n'a pas de visibilité sur l'efficacité du dispositif. Et l'Observatoire Clameur de la semaine dernière disait « Ça n'a aucune incidence, ça ne fait pas baisser les loyers, de toute façon. » Donc c'est plutôt... plutôt non, quoi. Plutôt bof. Encadrement des loyers.
Jean-Marie ?
L'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. Ça suffira.
C'est ça.
Je me souviens du rapport Inaki Chanis, Naïk Lemeur, qui est sorti en septembre, qui a participé à la fabrication de la loi qui va être présentée la semaine prochaine dans l'hémicycle. Et il relevait ce paradoxe. Si vous rénovez votre appartement, vous ne pouvez pas désencadrer le loyer. En clair, les propriétaires ne sont pas incités à rénover puisque leurs loyers sont encadrés. D'un côté, on veut lutter contre le changement climatique et de l'autre, on n'en donne pas les moyens aux propriétaires. Donc l'encadrement des loyers peut être très contre-productif sur tous les plans.
Moi, sur le terrain local, j'ai pu faire un reportage, notamment, c'était pour Challenge, à Grenoble. C'est l'une des villes après Lyon et Lille, hein, qui est à Grenoble. C'est Éric Piolle, hein, notamment, qui ne se représente pas, d'ailleurs.
Ouais, c'est une catastrophe, ce qu'il a fait de Grenoble.
Et alors là, pour le coup, les propriétaires lui en veulent, hein, je ne vous cache pas. Les agences immobilières, dès que vous l'appelez, vous les appelez, vous leur parlez de l'encadrement des loyers. Ouais. Je peux vous dire que pendant 5 minutes, vous entendez parler. Donc, ça prouve que ça a vraiment marqué et en tout cas, vraiment traumatisé, comme disait tout à l'heure.
Régis, votre avis
professionnel.
Globalement, en fait, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une bonne intention, comme ce qui a été dit tout à l'heure, mais les effets positifs n'ont pas été là, et on a eu plus d'effets négatifs, notamment sur ce poids qui est encore porté par les propriétaires, et qui se disent, c'est une contrainte qui donne pas envie de rester propriétaire bailleur, et du coup, me donne envie de vendre plutôt que continuer à louer un logement dont j'ai la propriété.
Il y a un effet positif, mais uniquement pour mon cabinet, c'est que moi j'ai eu des contentieux
nouveaux
qui sont arrivés. Effectivement, des propriétaires qui recevaient les mises en demeure de la mairie de Paris en leur disant « Vous devez rembourser 15 000 euros de trop perçu à votre locataire ». C'est comme ça que ça se passe, hein, parce qu'ils ont été dénoncés sur la plateforme mise en place par la ville de Paris. Évidemment, j'ai des dossiers qui sont arrivés. Plus sérieusement, sur le court terme, bien sûr, c'est une bonne chose pour les locataires. Mais sur le long terme, et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on s'attaque aux symptômes et pas au problème qui est l'offre en fait, de logement. Sur le long terme, et c'est la Commission européenne qui dit, vous avez vu cette étude, Bérénice, on en avait parlé ensemble, la Commission européenne a fait une étude très sérieuse et dans plusieurs pays, démontre que sur le long terme, ça n'a aucun effet. Au contraire, ça va raréfier l'offre locative. Donc je crois que c'est un peu politique, là, pour le coup, mais ça ne fonctionnera pas.
Et moi, d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait changer d'avis, cette étude, parce que j'étais... pas d'accord avec vous. Moi, j'étais plutôt pour l'encadrement des loyers. J'ai vu des exemples concrets. Alors, déjà, on a tous été locataires. Moi, j'ai été locataire. Je suis arrivée à Paris et j'ai dû faire face à des loyers hyper chers pour des minuscules appartements. Et j'aurais bien aimé, justement, à l'époque, que les loyers soient encadrés. Et on a quelqu'un dans l'équipe qui, justement, avait un propriétaire qui mettait. Alors, c'est rare. Enfin, c'est heureusement tous les propriétaires ne font pas ça, mais qui louait beaucoup trop cher. Et donc, ça a pu se réguler grâce à cet encadrement. Donc, moi, j'étais plutôt pour. Et puis après, c'est vrai que j'ai vu le rapport de la Commission européenne, et là, c'est vrai que j'ai changé d'avis, parce qu'en effet, sur le long terme, ça amplifie la crise du logement, ça fait vraiment fuir les propriétaires, en fait. J'avais pas cette notion...
Ça fait fuir les investisseurs, surtout.
Les investisseurs propriétaires.
J'ai un ami qui a perdu son père au début du Covid, donc qui a hérité, qui a voulu acheter un 2 pièces de 24 mètres carrés à Montorgueil, je m'en souviens précisément, où il y avait 2 lits superposés, donc c'était un Airbnb qui n'était pas loué à cause du premier confinement. Elle s'est dit, tiens, je vais l'acheter, je vais me faire 900 euros de loyer, je vais pouvoir le rentabiliser. Et l'agent lui a dit, attendez madame, avec l'encadrement des loyers, c'est 650 euros. Oui. Elle a dit, mais merde. Et le mec, il dit, oui, c'est encore un Saoudien qui va racheter.
Mais ça, c'est
mais son loyer sera encadré.
Il s'en fout, le Saoudien.
Il y a des moyens d'échapper à l'encadrement des loyers. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de succès sur les baux civils. Parce qu'on détourne, on vient me voir, me dit mais moi comment je fais pour échapper à l'encadrement des loyers? Donc on va lui faire un bail civil. Bail civil, je répète, c'est pas la loi de 89 qui s'applique, c'est pour la résidence secondaire uniquement du locataire. Alors on met des clauses en gras en disant le locataire s'engage à jamais installer sa résidence principale, ça vaut pas grand chose, je vous le dis entre nous, parce que s'il s'y maintient plus de 8 mois en fait, hein, c'est la durée légale d'une résidence principale, après c'est un risque de contentieux, risque de requalification après, bref ça fait bosser les avocats, mais je veux dire sur le papier ça règle pas le problème, donc on essaie de trouver des solutions un peu alambiquées comme le bail civil pour y échapper, mais alors après il y a le complément de loyer, ça c'est légal, complément de loyer on connaît pas très bien la définition du complément de loyer, donc si vous avez un petit bout de tour Eiffel dans la lucarne des toilettes, vous pouvez peut-être mettre un complément de loyer. Et ça se plaide. Moi, j'aurais pas de problème à le défendre, ce dossier-là. Mais vous voyez, c'est un peu n'importe quoi.
Et le mobilité aussi qui arrive.
Et le bail mobilité,
peut être une solution.
Ça triche, pour tricher.
Mais qui peut créer les cas de je reste dans le logement et je le libère pas, faute de peur de trouver quelque chose.
Selon moi, on doit appliquer l'encadrement et le plafonnement au bail mobilité. Hein. Et c'est pas selon moi, d'ailleurs. C'est parce que les gens pensent que ça s'applique pas au bail mobilité. Pas du tout. Le bail mobilité, il est concerné aussi.
Ça s'applique, d'accord. Mais ça permet d'avoir des revenus complémentaires en saisonnier sur l'été.
Ouais.
Donc, c'est plus intéressant, bail mobilité, mais ça n'a pas eu le succès escompté. Alors, plutôt pour essayer d'échapper à l'encadrement. Mais sur le papier, c'était pas idiot.
Ouais, il y a des familles qui se retrouvent à la rue au début de l'été à cause de ça.
Ah oui, à cause du bail mobilité.
Parce qu'ils sont là de septembre à juin, et après en juin, on dit allez, tu dégages, parce que juin, juillet, août, je remplis pour faire du Airbnb.
J'ai un dossier où je défends un locataire, justement. Immeuble bourgeois, magnifique. Mes clients, ils sont depuis longtemps à Paris. Les enfants sont scolarisés à Paris. le bailleur, une grosse foncière, leur fait signer un bail civil en leur disant surtout c'est votre résidence secondaire. Mais mes clients, ils ont signé parce qu'ils voulaient absolument, ils n'avaient pas le choix en fait.
Bah oui.
Ils voulaient cet appartement, il n'y en avait pas d'autre. Ils ne pouvaient pas se reloger ailleurs. Et le bailleur le sait très bien, puisque les enfants sont scolarisés. Donc là, je vais bientôt le plaider, ce dossier, c'est intéressant. Est-ce que je demande la requalification en bail loi de 89, ce qui veut dire qu'il peut rester 3 ans de plus. Et eux, ils mettent une pression parce qu'ils veulent faire des travaux, etc. Et ça, c'est le contrôle du juge. Heureusement, on est encore dans un état de droit, le juge va contrôler. Mais ça pose quand même énormément de difficultés pratiques. Moi, mes clients, ils sont angoissés. Est-ce que je vais être expulsé, etc. C'est compliqué. Mais ils ont signé parce qu'il y avait une pression, il n'y avait pas d'autre possibilité pour eux d'aller ailleurs.
On le voit, en fait, ces dispositifs ont été mis en place sans mesure d'impact, en fait. À chaque fois, c'est ça le problème. C'est que soit la loi climat et résilience, l'encadrement des loyers, le bail mobilité, à chaque fois, il n'y a aucune mesure d'impact.
J'ai été auditionné une fois, moi, à l'Assemblée nationale, par Kasbarian, sur le squat. Et les deux propositions que j'ai faites ont été reprises. Donc ça fonctionne de temps en temps. La première proposition,
c'est... Vous alliez plus souvent à ces émissions.
C'était la première proposition, c'était accompagner. De dire... avant, vous savez, il fallait démontrer que vous étiez propriétaire si vous n'y étiez pas personnellement, vous n'allez pas porter plainte personnellement, on ne prenait pas votre plainte. Donc là, ils ont prévu une disposition qui permettait à un représentant du propriétaire d'aller porter plainte à sa place. Donc c'était idiot, mais il suffit de... Et l'autre proposition que j'avais faite, c'était arrêter avec l'OPJ, il faudrait remplacer l'OPJ par un huissier. Commissaire
l'OPJ,
de justice,
l'officier
de police judiciaire qui devait constater le squat. Sauf que dans la pratique, il ne se déplaçait pas, il ne venait pas constater le squat, il avait autre chose à faire. Donc là, j'ai dit, il faudrait tout simplement demander à un huissier de venir, qui constate le squat, et ça, ils l'ont repris dans la loi. Et effectivement, sous l'angle du squat, la loi Kasbarian est un progrès pour le propriétaire victime de squat. Quand ça fonctionne, dans les 72 heures, vous pouvez obtenir... dans la pratique, c'est plus 10-15 jours.
C'est mieux que rien.
Mais c'est beaucoup mieux que 2 ans ou 3 ans. Mais encore une fois, le squat, c'est que pour le propriétaire qui est victime d'un squatteur qui rentre par effraction.
Ouais. Et pardon si je résume, si la proposition de loi de Corentin Lefull, député des Côtes d'Armor, est adoptée et encouragée, si j'ai bien compris, par Vincent Jeanbrun, ça va donner quoi ?
Alors lui, j'ai vu cette proposition, que je trouve intéressante sur le papier comme souvent. C'est-à-dire que l'idée, c'est de contraindre le préfet à donner le concours de la force, enfin à répondre, pas à donner, à répondre à la demande de concours de force publique dans un délai d'un mois. Très bien. Donc le préfet va devoir répondre. Sauf qu'en un mois, il va devoir proposer une solution de relogement aussi. Et donc, ce que je crains, moi, c'est que cette proposition de loi, je serais ravi d'en débattre avec lui, mais ça va aboutir à une augmentation encore plus importante des refus de concours de force publique. Et ce qui veut dire quoi derrière ? C'est-à-dire que les propriétaires qui sont victimes d'un refus de concours de force publique peuvent demander une indemnité à l'État, et l'État est tenu de payer. Donc ça va encore coûter de l'argent. Donc sur le papier, effectivement, c'est intéressant, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de solution de relogement. Et donc aujourd'hui, je vous ai dit, il y a à peu près 100 000, je crois, dossiers qui sont pas d'expulsion, qui sont jugés et qui ne sont pas exécutés par les préfets. Donc ça voudrait dire qu'on aurait 100 000 dossiers, 100 000 personnes de plus à la rue. Je ne pense pas que ça soit possible, bien sûr.
100 000 ménages.
100 000 ménages. Enfin, c'est ça. La réalité derrière, encore une fois, on oppose toujours le propriétaire au locataire, mais c'est plutôt l'État qui est responsable de tout ça, qui ne fait pas de politique du logement depuis des années, qui ne construit pas de logement, le responsable, c'est pas le propriétaire, c'est pas l'occupant, c'est l'État.
Et voilà. Et je crois que ce sera le mot de la fin. En tout cas, on va s'arrêter là. Mais c'est vrai, je crois qu'on est tous d'accord sur ce point. Merci beaucoup, Maître Romain Rossilandi, d'avoir accepté d'être notre invité pour ce numéro. On peut vous trouver sur Internet. Vous avez
Rossilandi avocat sur Google, on trouve facilement.
Voilà, tout simplement. Notre expert en droit immobilier. Merci Nathalie Coulot. Merci Jean-Marie Bordry. Merci.
Et à samedi Bérénice.
Et à samedi, c'est vrai, évidemment.
À midi, parlons immo.
Tout à fait. Merci César Armand. Merci Sébastien Chabas. Merci Régis Sébille. Et puis merci à Jason Pinero à la technique, à Eric Cala à la production. Et on se retrouve le mois prochain pour un tout nouveau numéro du Grand Jury de la presse immobilière. On sera avec David Chouraki, le directeur général de Crédit Agricole Services Immobiliers. Au mois prochain.
Le Grand Jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.